et bienvenue dans cette émission. La communauté internationale, au-delà des condamnés, l'action du M23 exerce une forte pression et prend des mesures coercitives contre ces mouvements rebelles qui est soutenu par le Rwanda. Cette réponse a été donnée aux journalistes ce dimanche à Goma par les délégués du Conseil de sécurité des Nations Unies qui clôturaient leur mission de 48 heures au Nord Kivu. Pour eux, en effet, certains leaders du M23 ont déjà été sanctionnés et cette stratégie va se poursuivre. Les délégués du Conseil de sécurité condamnent le soutien du Rwanda à la rébellion du M23 et insistent aussi sur le fait que ce soutien devrait cesser. Ils encouragent par ailleurs le processus diplomatique et politique ainsi que la voie de la négociation et le dialogue pour sortir de la crise dans l'est de la RDC. L'ambassadeur Nicolas Derivière fait le constat selon lequel la situation sécuritaire dans l'est de la RDC s'aggrave depuis fin 2021, notamment avec la progression de la rébellion du M23. Et face à cette situation, dit-il, les responsabilités pour une réponse appropriée sont partagées et précise qu'il y a une responsabilité qui incombe aussi à la RDC elle-même et au FRDC. Quelle lecture faire des déclarations de la délégation du Conseil de sécurité et quel pourrait être l'impact de la visite de cette délégation sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC? C'est l'objet de l'émission de ce soir et nous recevons Nissé Mugendi, qui est professeur de géopolitique et des relations internationales à l'Université catholique de Gaben. Il est aussi directeur du bureau Centre d'études sur la paix et la sécurité, BCEPS en sigle. Bonsoir, professeur Nissé Mugendi. Voilà, il n'est pas là. Monsieur Timothée Tchaombo Soucha, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université de Louvain en Belgique. Bonsoir, monsieur Timothée Tchaombo Soucha.
Bonsoir, cher ami.
Et Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Il est aussi consultant indépendant des questions internationales. Bonsoir, monsieur Frédéric Amani.
Bonsoir, monsieur Guy. Bonsoir à tous les auditeurs des radios Okapi.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous le disions au sommaire, la communauté internationale, au-delà de condamner l'action du M23, exerce une forte pression et prend des mesures coercitives contre ces mouvements rebelles qui est soutenu par le Rwanda. Cette réponse a été donnée aux journalistes ce dimanche à Goma par les délégués du Conseil de sécurité des Nations Unies qui clôturaient leur mission de 48 heures au Nord Kivu. Pour eux, en effet, certains leaders du M23 ont déjà été sanctionnés et cette stratégie va se poursuivre. C'est comme le dit ici les représentants du Gabon dans cette délégation, l'ambassadeur Michel Xavier Biang, dans ses propos recueillis par Bernardin Nyangui.
Je voudrais redire que le Conseil de sécurité des Nations Unies est l'organe principal de l'ONU en charge du maintien de la paix internationale. Ses outils pour maintenir la paix internationale sont la négociation, le dialogue, mais aussi les sanctions. Je suis au sein du Conseil de sécurité, celui qui préside le comité de sanctions concernant la RDC. Et j'ai mené ici en RDC et dans la région au mois de novembre une mission ici dans ma qualité de comité de sanctions, accompagné de tous les membres de ce comité de sanctions. Et je peux vous dire, n'est-ce pas, que dans mon ruling, il y avait deux questions principales que j'ai posées à tous les acteurs que j'ai rencontrés ici. J'ai passé 5 jours en RDC. La première question, c'est: est-ce que vous pensez que les sanctions sont utiles? Deuxième question: qui doit être sanctionné? Et nous continuons à travailler, donc nous avons toutes les options à la disposition du Conseil de sécurité pour pouvoir agir.
La MONUSCO est une opération de maintien de la paix et non des guerres qui relève de la responsabilité souveraine de la RDC. Cette mise au point a été faite par les représentants de la France au sein de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a clôturé ce dimanche à Goma son séjour de travail en province. L'ambassadeur Nicolas Derivière fait les constats selon lesquels la situation sécuritaire dans l'est de la RDC s'aggrave depuis fin 2021, notamment avec la progression de la rébellion du M23. Face à cette situation, dit-il, les responsabilités pour une réponse appropriée sont partagées. Ces propos sont recueillis ici par Bernardin Nyangui.
On a le M23 qui a progressé notamment depuis la fin de l'année dernière. Il occupe maintenant une portion assez importante au nord de Goma. Il y a d'autres groupes aussi, plus au nord, les ADF, Codeco et plein d'autres groupes. Et donc, on est confronté à une situation grave sur le plan sécuritaire et des perspectives qui peuvent être encore plus graves. Dans ce contexte, je voudrais juste rappeler que la MONUSCO est une opération de maintien de la paix. C'est pas une opération de guerre. Donc, c'est une opération dont le mandat consiste à appliquer un accord de paix et à monitorer, piloter la mise en place d'un accord de paix. Ça doit être très clair. Il y a une répartition des rôles. La MONUSCO est là aussi pour protéger les civils. Attaquer des groupes ne fait pas partie de son mandat. On peut effectivement s'intéresser à la mise en œuvre de ce mandat. Comment peut-elle mieux protéger les civils? Comment lui donner plus de moyens pour qu'elle le fasse? Ensuite, il y a une responsabilité qui incombe aussi à la République démocratique du Congo elle-même, au FARDC. Les FARDC sont chargés de la sécurité du pays. C'est un pays souverain avec son armée, et l'armée congolaise doit également agir contre les groupes. Donc c'est assez important que les responsabilités respectives soient rappelées et établies.
Professeur Nissé Mouhendi, bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes professeur des géopolitiques et des relations internationales à l'Université catholique de Gabin. Vous êtes aussi directeur du bureau Centre d'études sur la paix et la sécurité, BCPS en sigle. L'émission est aussi pédagogique. Hein. Et pouvez-vous nous expliquer en quelques phrases la mission du Conseil de sécurité des Nations Unies?
Le Conseil de sécurité a pour mission principale le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Donc c'est en quelque sorte une mission de police internationale. Alors je dois rappeler ici que l'ONU, c'est une organisation de sécurité collective qui essaie de promouvoir la paix et d'optimiser cette paix. Ce n'est pas une organisation qui a été créée pour faire la guerre, donc contrairement à l'OTAN, par exemple. Donc l'ONU est là d'abord pour promouvoir la paix. Il est tout à fait logique que la délégation du Conseil de sécurité à Goma le rappelle aux auditeurs. L'ONU ne fait pas la guerre, elle est là pour la paix essentiellement. Et même lorsqu'elle a créé une mission de maintien de la paix, et c'est bien dit, maintien de la paix, ça suppose qu'il y a une paix préalable, qu'il y a un cessez-le-feu, que les troupes de Nations Unies viendront maintenir. Alors, s'il tient les responsabilités des uns et des autres, moi j'ai pu quand même retenir que le Conseil de sécurité a condamné la guerre du 1-23. Et tout ce qui soutient le 1-23, ça veut dire le Rwanda.
On rappelle ce qui s'est passé hier à Goma lors de ces points de presse. Les membres de cette délégation du Conseil de sécurité ont affirmé que la communauté internationale, au-delà de condamner l'action du 1-23, exerce une forte pression et prend des mesures coercitives contre ces mouvements rebelles qui est soutenu par le Rwanda. Après que cette délégation ait rencontré des personnalités politiques et des membres de la société civile, peut-on dire qu'après ces différentes rencontres ici à Kinshasa et aussi à Goma, que le Conseil de sécurité des Nations Unies détient aujourd'hui assez d'éléments pour passer à l'action, par notamment l'adoption de certaines sanctions contre le M23 et son soutien le Rwanda?
Oui, c'est certain. Le Conseil de sécurité est constitué quand même de personnes et représente des pays sérieux qui ne peuvent pas faire une déclaration non suivie des faits. Le tout est question d'exploiter cette ouverture, hein, d'exploiter désormais cette opportunité pour la RDC, où le M23 est condamné, il y a même des membres du M23 qui sont sous sanctions, et ces sanctions qui vont être renforcées, mais le Rwanda aussi qui est condamné. Et donc c'est là que je voulais dire que pour la RDC, il y a une double opportunité. Déjà, sur le plan symbolique, c'est un succès. Hein. C'est, le Conseil de sécurité s'est déplacé jusqu'à Goma, mais n'a pas été à Kigali. Il a été à Kinshasa, il n'a pas été à Kigali. Il a été à Goma, la ville assiégée par le 1-23. Et pour écouter, hein, comme vous venez de le dire, écouter les différentes couches, les différents témoignages sur ce qui se passe sur terrain. Et donc, il est tout à fait logique qu'on le puisse attendre à une exploitation sérieuse de toutes ces données. Et il appartient à la RDC de suivre, hein, d'utiliser sa diplomatie pour rappeler au Conseil de sécurité qu'il a quand même été à Goma et qu'il a laissé planer des promesses, hein, une action beaucoup plus sérieuse.
Oui, comme il a été à Goma, il a été à Kinshasa, il a été à Goma, mais sans être parti à Kigali. Et vous pensez que le fait de ne pas arriver à Kigali peut lui permettre d'avoir tous les éléments nécessaires pouvant lui permettre d'être en mesure de prendre des décisions à l'endroit du M23 et du Rwanda?
Ah oui, je pense. Parce que sur terrain, on peut avoir les éléments suffisants pour prendre une décision. On peut avoir des éléments suffisants sur la présence ou pas de l'armée rwandaise, la présence ou pas des soutiens rwandais au M23. Et c'est juste pour la justification, la motivation du 1-23 ou du Rwanda qu'on pourrait aller du côté de Kigali. Or, je dirais la motivation de Kigali est toujours connue, donc elle est connue depuis des décennies. Donc, je ne pense pas qu'il y a une nouveauté à part le fait d'accuser la RDC d'héberger de FDLR ou de réclamer que des réfugiés congolais rwandophones tutsi essentiellement puissent rentrer dans le Masisi. Donc les motivations du Rwanda sont déjà très connues et si on lui pose des questions sur les faits, il va nier, c'est certain. Mais si ils ont des données de terrain qui permettent de confirmer l'implication du Rwanda, je ne pense pas qu'il soit utile qu'ils aillent jusqu'à Kigali.
Merci. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, cet organe est composé de 5 membres permanents et chacun agit selon ses intérêts, on le sait. Et on se rappelle qu'en 2012, lorsque le M23 avait occupé la ville de Goma, que les membres du Conseil de sécurité étaient divisés sur la proposition, n'est-ce pas, d'une résolution de la France qui recommandait la création au sein de la MONUSCO d'une brigade spéciale pour aider le gouvernement congolais à combattre cette rébellion. Il y a même des puissances qui avaient opposé leur veto à cette proposition de la France. Il a fallu d'intenses pressions pour que finalement ces veto soient levés et que la résolution soit adoptée. Et c'est ce qui avait, n'est-ce pas, permis de mettre en place cette synergie FRDC-MONUSCO pour défaire en 2013 le M23. Professeur, quelles sont les marges de manœuvre du Conseil de sécurité aujourd'hui quand on sait que cette question d'intérêt pourrait une fois de plus surgir?
La question d'intérêt a toujours été présente depuis la naissance de l'ONU. Vous avez dit que cette émission est pédagogique, donc j'en profite pour rappeler un peu le contexte de gestation de l'ONU. En fait, les membres permanents du Conseil de sécurité sont les 5 vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et jusqu'ici, il y a beaucoup de débats d'ailleurs sur l'entrée de d'autres pays qui pourtant contribuent beaucoup au budget des Nations Unies, y compris pour le budget du maintien de la paix. Donc des pays comme l'Allemagne et le Japon qui contribuent plus que la France ou que la Chine ou que le Royaume-Uni, que la Russie n'ont jamais été admis hein, dans le cercle des 5 vainqueurs de la Deuxième Guerre, tout simplement parce qu'ils avaient été vaincus. Et donc vous comprenez que les intérêts qu'ils avaient à l'époque et ces intérêts continuent sur chaque cas qui est concerné pour une décision. La France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et la Russie ont des intérêts, chacun des intérêts qui peuvent ne pas être compatibles avec les intérêts de la RDC, le pays qui est menacé et pour lequel il faut une décision. Et donc c'est pour ça que je souligne l'importance de la diplomatie congolaise, la qualité de la diplomatie d'un pays, du pays victime, comme c'est le cas de la RDC, victime d'une agression. Et lorsqu'on sait que la Charte des Nations Unies autorise la légitime défense, et la RDC se trouve en position de légitime défense, laquelle légitime défense peut s'exercer de manière individuelle ou de manière collective. Donc tout dépend de la nature, de la qualité des relations entre la RDC et les membres permanents du Conseil de sécurité pour dégager un consensus sur les problèmes qui touchent la RDC. Donc, plus la RDC a des intérêts communs avec les pays membres du Conseil de sécurité, plus elle bénéficiera ou décrochera des décisions en sa faveur.
Merci, professeur. Monsieur Timothée Kaombo-Soucha, vous êtes chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université de Louvain en Belgique. Depuis que la guerre du M23 a repris, au Nord Kivu, chaque fois qu'on annonce, n'est-ce pas, l'arrivée d'une personnalité étrangère, cela, n'est-ce pas, semble susciter beaucoup d'espoir dans l'opinion congolaise, comme lorsque cette délégation du Conseil de sécurité est arrivée. À votre avis, après leur séjour, peut-on se permettre, n'est-ce pas, de dire que les nombreuses attentes de la population congolaise ont été satisfaites?
D'abord, je vais saluer mes deux co-débatteurs, notamment le professeur Lumbashi et celui qui intervient au téléphone. Je crois que tout le monde est au téléphone, finalement. Je ne sais pas si la population congolaise attend encore quelque chose des Nations Unies ou espère, chaque fois qu'il y a une personnalité qui passe en RDC, c'est quasiment, j'ai toujours vu, c'est de la déception. La déception parce que les rapports, notamment des experts des Nations Unies, gisent sur les tiroirs du même Conseil de sécurité. Le professeur a rappelé un élément important, comment la délégation n'est pas allée à Kigali, qui est un pays agresseur. Vous avez dit tantôt que l'émission a un caractère pédagogique. Il faut rappeler aussi le fait que les Nations Unies, contrairement à ce que j'ai entendu un membre des Nations Unies qui dit de la délégation, je veux dire, qui disait que nous ne sommes pas un outil de guerre. Non, les Nations Unies, certes, sont un outil de paix. Les conseils de sécurité, notamment, qui est l'organe central de toute la politique sécuritaire internationale, n'est pas qu'un outil de paix. À un moment donné, lorsque la paix est menacée, la rupture de la paix est constatée, il y a un acte d'agression, le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies autorise au Conseil de sécurité de prendre des mesures plus coercitives. Article 40, 41, voire même 42 préconise même l'utilisation de la force. Précisément à l'article 41, le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures prendre en ce moment-là. Avec les moyens à sa disposition ou les moyens des États membres qui font membre du Conseil de sécurité de déployer des moyens de coercition, la force notamment, force aérienne, force navale, force terrestre. Le Conseil de sécurité peut le faire. Et dans le cas d'espèce, la RDC se trouve agressée par le Rwanda. On n'a pas besoin de chercher d'autres preuves. La presse militaire du Nord Kivu avait présenté des éléments rwandais. Même dans les combats entre le 1er et le 8 de ce mois, il y a eu énormément d'officiers et de militaires rwandais qui sont tombés sous les coups. Ils sont identifiés. Vous êtes des journalistes, menez les enquêtes, vous trouverez.
Et lorsque Timothée, lorsque l'ambassadeur français insiste sur le fait que les Nations Unies ne sont pas une force de combat, une force de guerre, mais une force d'imposition ou de maintien de la paix, est-ce que c'est pas une façon de dire qu'il ne faut pas espérer qu'un jour les Nations Unies pourraient, n'est-ce pas, s'impliquer dans une approche militaire si la RDC utilisait cette approche-là contre les M23 ou le Rwanda?
Oui, mais l'ambassadeur français aux Nations Unies était clair. C'est, même si je constate cette ambivalence entre l'attitude du même Conseil de sécurité dans le conflit russo-ukrainien, l'ONU n'utilise pas le même langage que celui qu'il utilise en RDC. Donc, oui, ce n'est pas un outil de guerre, c'est un outil d'imposition de la paix, mais le chapitre, je parle du chapitre 7, l'article à partir de 39 jusqu'à 42, autorise les Nations Unies à utiliser la force. Alors, pour revenir à votre question, nous nous trouvons dans les cas de figure où la RDC, qui fait membre des Nations Unies, est agressée par le Rwanda, et que donc de ce fait, voilà, la paix, la sécurité internationale, régionale, disons-le, est menacée, est rompue. Vous avez énormément de déplacés de guerre, vous avez énormément de victimes, des personnes qui sont tombées par ces conflits-là. Oui, les Nations Unies, oui, le Conseil de sécurité se trouve dans la position où il peut participer au rétablissement de la paix, soit par le dialogue, soit par l'imposition de la force. À partir du moment où, et c'est ici où j'ai même rappelé la fois passée lors de l'émission passée avec vos collègues, que les narratifs utilisés à un moment donné dans la presse et même par certains officiels congolais posent un problème. À partir du moment où on qualifie la guerre du Kivu comme étant la guerre d'agression, on ne peut plus parler d'un groupe terroriste. Et un groupe terroriste, on ne les notifie pas. Vous avez vu, les chefs d'État à Addis Abeba ont chargé le président angolais de notifier au M23 les décisions, les résolutions. Donc, c'est plus un mouvement terroriste, parce que ceci risque de compliquer même des négociations. Ça risque de pousser le gouvernement congolais à se décrédibiliser, même dans l'opinion, parce que parler, notifier un mouvement terroriste, je ne l'ai jamais vu à travers le monde. Et ici, nous sommes dans les cas où le gouvernement doit utiliser soit la force, soit des négociations.
Merci. Et face à cette situation de guerre qui oppose la RDC et la M23 soutenue par le Rwanda, les membres de la délégation du Conseil de sécurité ont affirmé que les responsabilités pour une réponse appropriée sont partagées, en précisant qu'il y a une responsabilité qui incombe aussi à la RDC elle-même et au FRDC. Comment vous comprenez ces propos, M. Timothée Tshaombo-Soutia?
Il revient à l'État congolais de s'assumer avant tout, parce que la mission de rétablissement de la paix, de maintien de la paix, ce sont des missions de souveraineté, ce sont des attributions régaliennes d'un État. Il revient avant tout, et d'ailleurs j'ai toujours dit qu'on ne peut même pas sous-traiter des questions de sécurité. Donc il revient à notre armée, à l'État-major général, au commandant suprême, d'organiser des réformes. Le président ukrainien est en train de faire des réformes militaires au même moment qu'il est en train de mener de la guerre. Donc ceci n'exclut pas cela. Il revient, et notre armée l'a démontré plusieurs fois à l'époque de Mamadou Ndala, même si la brigade, et c'est la statistique que je contredis quand même, cet ambassadeur des Nations Unies, la MONUSCO a reçu dans le chapitre 7 le mandat d'accompagner le FARDC. Et lorsque le M23 était défait en 2012-2013, c'était aussi avec l'appui de la brigade de la MONUSCO. Donc, lorsque la paix est rompue, il revient à l'armée nationale de s'assumer. Mais dans le cas d'espèce, nous, la RDC étant membre des Nations Unies, nous avons bénéficié et nous bénéficions de la mission des Nations Unies à RDC et dans les chapitres autorise l'usage de la force. Donc, à la fois, c'est une mission qui revient à notre armée, mais nous sommes accompagnés par la mission de l'ONU en RDC, la mission qui n'est pas encore clôturée. Et donc oui, cette collaboration sécuritaire de la défense s'accompagne aussi avec les Nations Unies.
Merci, Monsieur Frédéric Amani. Vous êtes chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Vous êtes aussi consultant indépendant des questions internationales. Les délégués du Conseil de sécurité encouragent les processus diplomatiques et politiques ainsi que la voie de la négociation et le dialogue pour sortir de la crise dans l'Est de la RDC. Comment vous réagissez à cette recommandation, Monsieur Frédéric Amani?
Bien, merci beaucoup pour la question. Je salue aussi les co-débatteurs et les milliers des auditeurs de Radio Capi. Alors, les déclarations de membres du Conseil de sécurité peuvent être comprises à ces niveaux. D'abord, dialoguer ou négocier avec qui et pour quelle fin? Est-ce avec le M23 ou avec le Rwanda et l'Ouganda? Parce que on ne le dira pas assez, dans cette conflictualité à l'Est, on ne doit pas dissocier l'Ouganda parce que, de temps en temps, l'Ouganda continue à jouer le double jeu vis-à-vis de la RDC. Alors, lorsqu'ils disent, c'est-à-dire les délégués du Conseil de sécurité, de négocier, de dialoguer, est-ce avec le M23 ou avec le Rwanda et l'Ouganda comme pays agresseurs de la RDC au regard des rapports d'experts des Nations Unies, des Human Rights Watch, des plusieurs autres organisations? Un autre élément, en voulant que la RDC dialogue avec d'autres parties prenantes à cette conflictualité, pourquoi la délégation n'a pas aussi songé rencontrer le M23 parce qu'ils sont aussi à l'Est, parce qu'on devrait aussi le rencontrer pour écouter leur desiderata? Ou bien, si ce n'est pas avec le M23, la délégation devrait aussi se rendre peut-être à Kigali ou à Kampala pour écouter un autre son de cloche, pour que si dialogue il y aura, c'est avec quelle partie? Est-ce avec le Rwanda ou avec le M23? Au-delà de ça, moi je pense que je suis tenté de dire que beaucoup de pourparlers, beaucoup de tractations autour de cette insécurité à l'Est, mais qui manque ce qu'on peut qualifier d'une volonté manifeste politique de la part des acteurs inclus dans cette conflictualité. Pourquoi? Parce que il y a déjà des cadres bien appropriés pour parler de cette question de l'Est. Il y a la FEDEAO de Luanda, il y a les pourparlers de Nairobi. Et quel est l'apport du Conseil de sécurité, connaissant bien l'un des objectifs de leur mission, c'est d'évaluer l'état sécuritaire. Je crois que ils ont été frappés par la situation chaotique qui sévit dans cette partie. nous attendons les résultats escomptés de la part du Conseil de sécurité par rapport au constat que la délégation va faire vis-à-vis de cette instance. Mais pourquoi ne pas s'appuyer sur l'affaire des routes de Luanda ou le pourparler de Nairobi pour mettre en place une synergie qui va permettre à ce que les M23 acceptent le cessez-le-feu et le Rwanda et l'Ouganda acceptent de retirer aussi leur soutien au M23 pour que la paix et la sécurité reviennent dans cette partie. J'ai comme impression, je respecte bien les conseils de sécurité ou la communauté internationale pour tout le soutien qu'ils apportent à la RDC, on ne doit pas l'oublier, mais j'ai comme impression que depuis un temps, on cherche à tourner à rond et que on cherche aussi à déshabiller Saint-Pierre et à revêtir Saint-Paul dans la mesure où on n'a pas condamné le soutien rwandais, on n'a pas condamné le soutien ougandais, mais on cherche à tourner à rond. C'est ça le grand problème.
Moi, je pense que...
Oui.
Et nous rappelons aussi que tous ceux qui viennent visiter la RDC pendant cette période de guerre, la guerre du M23, insistent sur la nécessité d'une solution politique. On se rappelle que l'Union africaine prône cette approche. Et le président français, récemment, quand il est passé par ici, Emmanuel Macron, a fait la même proposition. Et là, c'est cette délégation du Conseil de sécurité qui revient, n'est-ce pas, sur la solution politique. Nous l'avons dit, l'émission est aussi pédagogique. Monsieur Frédéric Amani, vous, en tant qu'expert, la négociation politique pour résoudre la question M23, quel pourrait être, n'est-ce pas, l'avantage d'une telle approche et quelles seraient ses limites?
Bien, merci beaucoup pour cette question pertinente mais aussi complexe. Alors, les avantages de toute négociation, surtout dans le cadre des conflits, pour qu'on arrive à un accord de paix et que cet accord soit appliqué, soit respecté, et que la vie revienne à la normale. Mais l'inconvénient, c'est que on veut négocier avec un groupe rebelle, dont on ne connaît pas, il est vrai, on l'a dit, et ce groupe M23 est constitué et des Congolais, mais aussi des Rwandais, des Ougandais, on ne doit pas l'oublier. Maintenant, en allant sur la table des négociations, c'est pour que les officiers du M23 de différentes nationalités deviennent qui? Deviennent aussi des officiers congolais. Or, il n'y a pas longtemps, on a toujours décrié que l'une des faiblesses de l'armée congolaise, c'est le fait que cette armée serait infiltrée. Infiltrée par le fait que c'est une armée qui regorge aussi des officiers venant d'autres États. Alors, c'est ça l'inconvénient. Et un autre élément, c'est que un État négocié avec un groupe rebelle, je crois que, à mon avis, c'est réduire l'État congolais à un niveau inférieur. Ce qui est important, il est vrai que le dialogue a toujours été une vertu dans toute société moderne, je suis d'accord, mais dialogue avec qui? Puisque les faits sont clairs, le Rwanda et l'Ouganda sont derrière les M23. Alors, négociation avec le Rwanda et l'Ouganda, c'est une bonne chose. Et que, à l'issue de ce dialogue, la RDC saura s'assurer et s'assumer comme un État souverain face aux conclusions des dialogues. Moi, je pense que c'est de cette manière-là qu'il faut envisager le dialogue pour la paix et la sécurité dans cette partie meurtrie par des conflits interminables.
Merci, professeur Nessé Nusse Mouhendi. Nous allons maintenant donner la parole aux auditeurs qui sont en train d'appeler pour donner leur point de vue par rapport à ces sujets. Et professeur Nessé Mouhendi, vous allez réagir à ces propos de M. Alidor Mampouya qui nous appelle depuis la ville de Kananga au Kasaï central.
Le maître Alidor Mampouya, avocat à partir de la ville de Kananga. La déclaration faite par les délégués des Nations Unies à l'issue de leur mission en RDC est bonne. Mais il eut fallu que ces délégués envisagent des sous-militaires en proposant par exemple la mise en place d'une force militaire internationale qui pourra venir combattre contre les rebelles du M23. Les seules sanctions économiques et politiques ne suffisent pas au stade actuel car le M23 ne sentira pas leurs effets et la situation sécuritaire surtout risque de rester délétère ou même aller de mal en pis.
Oui, professeur Nissé Mouhendi.
Oui, alors je remarque quand même du côté de l'auditeur Alidor et de la part de mes co-débatteurs et des auditeurs, de Radio Capi en général, qu'il y a beaucoup d'attentes de la part de la MONUSCO. Donc, si on se fait trop d'attentes de la part de l'ONU, on va être déçus certainement. Et c'est pour ça que j'aimerais rappeler la différence entre une organisation de sécurité collective et une organisation de défense collective. En fait, j'ai dit que l'ONU, c'était une organisation de sécurité collective qui, je suis d'accord, doit accompagner les États membres, mais accompagner dépend de la nature de l'organisation. Une organisation de sécurité collective promeut d'abord les initiatives de paix, qui sont bien décrites dans le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies, et ne recourt à la force que dans des circonstances exceptionnelles. Donc le principe, c'est la promotion de la paix par des voies pacifiques, l'exception, le recours à la guerre. Dans une organisation de défense collective, c'est l'inverse, c'est comme l'OTAN. L'accompagnement ici signifie qu'un pays membre, lorsqu'il est agressé, on déploie directement l'armée et on négocie après. D'ailleurs, on ne négocie pas.
Professeur Nissé Mouendi, vous êtes dans la région des Grands Lacs, vous êtes au nord Kivu à Goma, et vous voyez ce que vivent, n'est-ce pas, les populations civiles du fait de cette guerre du M23. Et après plusieurs mois d'affrontements entre M23 et FRDC, après plusieurs, n'est-ce pas, rencontres et feuilles de route signées à Luanda et à Nairobi, et que on se rend compte que tout cela n'a rien changé sur le terrain, vous ne pensez pas que cela puisse, n'est-ce pas, pousser le Conseil de sécurité à estimer que les conditions sont réunies et maintenant pour recourir au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, comme l'a rappelé M. Timothée Tshaombo Soutcha?
Oui, mais le Conseil de sécurité, je salue bien Timothée qui est à Louvain où j'ai moi-même fait ma thèse. Donc le Conseil de sécurité ne peut pas accompagner la RDC dans une voie que la RDC n'a pas privilégiée. C'est la RDC elle-même qui a commencé l'option politique et diplomatique. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis des années, c'est depuis 20 ans que la RDC négocie avec des groupes armés et avec les États qui l'agressent. Et donc le Conseil de sécurité ici, en condamnant le Rwanda et le M23, a exprimé son soutien à la RDC. Et lorsque le Conseil de sécurité dit à la RDC qu'il soutient la RDC donc il privilégie la voie diplomatique et il encourage la RDC dans la voie diplomatique et politique. C'est en fait une façon de dire à la RDC, nous vous accompagnons dans ce que vous avez choisi de faire.
Si la RDC avait prôné l'approche militaire, les conseils de sécurité seraient aujourd'hui en train d'encourager la RDC dans cette approche militaire.
Oui. Voilà ce que je voulais dire. Donc la RDC, si la RDC avait choisi l'option militaire, le Conseil de sécurité qui a maintenant toutes les preuves et qui a visiblement de bonnes relations avec la RDC, allait certainement accompagner la RDC dans cette option militaire.
Merci pour ça.
Le Conseil de sécurité ne peut pas venir dire à la RDC, arrêtez de négocier, nous on fait la guerre à votre place. La RDC c'est un État souverain. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on recentre l'attention sur le rôle de la RDC dans le choix stratégique de la solution à apporter au problème bien 23.
Merci, M. Timothée Tshaombo Soutcha. Vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Goma au nord Kivu.
Moïse Angui, philosophe du mouvement citoyen Lutte pour les changements, lutta depuis la ville de Goma en province du Nord Kivu. La sécurisation de notre territoire et de son peuple incombe premièrement de la responsabilité de notre gouvernement et de notre armée, le FRDC. Comptons plus sur nous-mêmes que d'attendre des solutions miraculeuses des N'attendons pas beaucoup ou grand chose de la part du Conseil de sécurité de l'ONU ou même des autres organisations régionales et sous-régionales. Il est temps que le président de la République et tout notre gouvernement prennent les choses en main et au sérieux. Sans cela, nous risquons de vivre le pire. S'agissant de la réaction de la délégation du Conseil de sécurité, condamner l'agression d'un autre pays et victime de la part du Rwanda est une bonne chose, mais qui ne suffit pas. Le Conseil de sécurité devait aller au-delà de cela en faisant une forte pression et en prenant des mesures coercitives très lourdes contre Kigali qui parraine le M23. Aller outre cela, c'est de la poudre aux yeux de la part de cette délégation.
Monsieur Timothée Tshaombo Soutcha,
Je suis parfaitement d'accord avec Moïse de Lucha à Goma, parfaitement d'accord aussi avec l'intervention du professeur tout à l'heure de Goma, pour dire que c'est l'option que prendra le dirigeant congolais, le gouvernement congolais, que suivra l'ONU et même d'autres organisations régionales. Rappelez-vous que Zelensky, en Ukraine, s'est mis avec sa population dans la logique de défendre leur souveraineté, leur pays, et donc le monde entier, je veux dire l'ONU, l'OTAN, tous les États qui appuient l'Ukraine, viennent dans la logique telle que tracée par les dirigeants. Je suis aussi d'accord avec lui dans la mesure où c'est ostensible. Les Nations Unies ont fait plusieurs rapports qui attestent que le Rwanda agresse la RDC. Nous avons le gouverneur du militaire du Nord Kivu a mis la main sur les éléments rwandais. Il y a les preuves, ils ne sont plus à rechercher. Le Conseil des Nations de sécurité doit passer aux sanctions contre le Rwanda. Il doit passer aux sanctions contre le Rwanda. C'est cela qui devait se faire. Et nous n'attendons pas, que les Congolais n'attendent rien des Nations Unies. Ça fait plus de 10 ans qu'il y a un rapport qui gît, je l'ai rappelé tantôt. Mais il y a un élément très inquiétant dans l'attitude du gouvernement congolais qui m'inquiète, et je l'ai rappelé lors de la dernière émission que j'ai passée avec vous. C'est quoi les narratifs? Parce que c'est ça ce qui va déterminer la nature des négociations. Et en résolution des conflits, ces trois groupes n'ont pas le même traitement. Est-ce que nous faisons face à un groupe rebelle, qui est un groupe politico-militaire congolais, le M23? Si c'est un mouvement politico-militaire congolais, alors nous irons dans la force ou des négociations comme le gouvernement l'a initié avec tous les autres groupes armés. Mais si c'est un groupe terroriste, on ne négocie pas du tout avec un mouvement terroriste, on ne peut même pas notifier les résolutions des chefs d'État à un mouvement terroriste. Mais si c'était un mouvement d'agression, et donc nous irons soit par la force, soit négocier avec le principal agresseur. Alors que dans le jargon à Kinshasa, on parlait tantôt de rebelles, on parlait tantôt de terroristes, on parlait tantôt des agresseurs. Si, comme le chef de l'État l'a bien dit clairement à l'ONU, on a parlé de l'agresseur rwandais, et le chef d'État n'arrête pas de le rappeler, qu'on retienne ce narratif, à ce moment-là, soit que nous utiliserons la force pour neutraliser le M23 et tous les autres groupes armés qui écument le Kivu, ou soit nous irons en négociation. C'est ça l'élément. Alors, le narratif à Kinshasa, sur le plan interne, change tantôt entre rebelles, groupes armés, groupes d'agression, terroristes. Ceci complique complique la nature de la négociation, la nature du traitement du problème. Lorsqu'on soutient que c'est une agression, alors on reste dans l'approche diplomatique et militaire, parce que l'une n'exclut pas l'autre. Si la diplomatie n'aboutit pas, nous irons dans la force contre le M23 et contre tous les autres groupes armés.
Merci, Monsieur Frédéric Amani. Vous allez aussi réagir à cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo.
Héritier Wamenga depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Nous ne pouvons pas espérer grand-chose à cette communauté internationale qui agit sur base d'intérêt. Si et seulement si le Conseil de sécurité a pour cheval de bataille imposition de la paix et la sécurité mondiale, on n'aurait pas assisté à la déstabilisation de la partie est du pays plusieurs années. Sûrement, il peut y avoir des mains cachées derrière la guerre en RDC. Quel que soit le contexte de la guerre, les Congolais pensaient voir cette communauté internationale mobilisée comme en Ukraine pour contraindre et l'agresseur et ceux qui soutiennent cette guerre, qui sont donc les pays voisins de la région. À mon avis, l'armée congolaise doit s'organiser pour assurer à bon escient sa mission traditionnelle, celle de la défense de l'intégrité territoriale.
Monsieur Frédéric Amani.
Bien, merci beaucoup. Je salue l'auditeur de Kisangani, Monsieur Héritier, pour sa question. Effectivement, on ne peut pas compter sur la communauté internationale tant que les efforts au niveau interne ne sont pas fournis. Et je crois que c'est la réalité du soutien de la communauté internationale. Il faut qu'il y ait une dynamique interne qui va influencer celle externe. Mais ce qui est censé être fait par la RDC devrait être fait, et je crois, même le président Macron l'a rappelé, et même la délégation, c'est-à-dire, on ne doit pas voir seulement le mal de l'autre côté, mais aussi, au niveau interne, il y a ce qui doit être fait. l'armée doit être organisée, je suis tout à fait d'accord, il y a des réformes, on doit, n'est-ce pas, chercher à enlever, si vous voulez bien, tous les infiltrés qui seraient dans l'armée congolaise. Mais une unité autour des institutions doit être mise en place. La cohésion nationale, par exemple, la société civile, a aussi un rôle à jouer, par exemple, en dénonçant les mouvements suspects qu'on peut observer, que ce soit à l'Est ou ailleurs. Et je crois que c'est de cette manière-là qu'on parviendra à résoudre cette question. Un autre élément, je crois l'avoir dit et ça vaut la peine de le répéter, c'est que au-delà de penser que le Rwanda, l'Ouganda nous agresse au travers les M23, mais au niveau interne, est-ce que, c'est vrai, cette question sécuritaire est une question complexe parce que ça touche à la souveraineté de l'État, il y a des stratégies qui ne doivent pas être mises à la place publique, je suis tout à fait d'accord. Mais au niveau interne, on a l'école de guerre à Kinshasa. Est-ce que on s'inscrit aussi dans une perspective de dire que dans 2 ans, 3 ans, il faut qu'on ait une armée républicaine capable de bouter hors état de nuire toutes les menaces qui viendraient de l'extérieur? Est-ce que on a aussi d'autres stratégies au niveau international, par exemple, ce que je qualifie d'une intelligence stratégique dans la mise en place d'une politique étrangère qui va permettre à ce que les alliés de la RDC s'arrangent derrière la cause congolaise. J'ai comme impression, depuis toutes les tractations qui ont été faites au niveau régional, au niveau international, c'est à peine qu'on entend tel ou tel allié de la RDC hausser le ton vis-à-vis des pays agresseurs ou vis-à-vis de ce qui se passe à l'Est. Je crois que l'intelligence stratégique dans la mise en place d'une politique étrangère matérialisée par une diplomatie efficace permettra à ce que la RDC soit non seulement obtienne le soutien de ses alliés, mais d'abord soit le maître de sa sécurité au niveau interne.
Merci.
Je crois que c'est de cette manière-là qu'on parviendra à résoudre cette première question de l'Est et de la RDC.
Merci. Nous allons conclure cette émission. Professeur Nissé Mouhendi, nous revenons sur cette question d'impact de la visite. À votre avis, quel pourrait être l'impact de la visite en RDC de la délégation du Conseil de sécurité sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays? Peut-on espérer que les lignes pourraient, n'est-ce pas, bouger sur le terrain?
Oui, moi je considère qu'avec cette visite et les propos tenus par la délégation, la RDC comme État a le blanc-seing pour faire la guerre au M23 et pour faire la guerre au Rwanda qui l'agresse. Donc ça c'est un blanc-seing, c'est la première chose. La RDC a aussi le blanc-seing pour commander toutes sortes d'armes dont elle pourrait avoir besoin pour faire cette guerre. Il n'y a plus de limitation. Il y avait une limitation, une obligation de notification sur les armes légères. La RDC a longtemps prétendu qu'elle était sous embargo, c'était une sorte d'auto-embargo. On n'interdisait pas la RDC de commander des chars, de commander des avions de guerre, mais elle ne l'a pas fait, parce qu'elle attendait trop de la MONUSCO. Donc je pense qu'ici que la RDC peut commander toutes sortes d'armes, elle peut même le faire à crédit. Hein. Tous les États du monde peuvent coopérer avec la RDC dans ce sens. Et je pense qu'ici, c'est à la RDC de faire le
capitaliser.
Pas. Qu'est-ce qu'on attend? Oui, de capitaliser pour s'organiser militairement et ne plus être ridiculisé par de petits États ou de petits groupes armés.
Merci, M. Timothée Tchao Mosoucha. Nous allons se conclure avec vous. Et à votre avis, c'est quoi l'impact? Quel pourrait être l'impact de cette visite de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies en RDC sur le terrain des opérations?
L'impact peut être... Si cette fois-ci le Conseil de sécurité ne se comporte pas comme avant, parce que ceux qui sont venus chercher voir à Kinshasa, à Goma, c'est ceux qui ont toujours dans les rapports à New York. Donc l'impact, c'est qu'aujourd'hui, qu'ils appellent, et c'est ce que le chef d'État disait, ben, on va vous voir à l'œuvre, on va vous voir à l'œuvre. Ce qui va se passer, et c'est qu'on attend l'impact sur le terrain des opérations, qui est un cessez-le-feu, et qu'il y ait cantonnement du M23, et qu'il y ait évaluation de leur cahier des charges. Le M23 a toujours un cahier des charges et des accords signés avec l'ancien régime, etc. C'est sur cette question qu'on va se poser. Mais il ne faut pas oublier aussi que même lorsque qu'on ira aux négociations, l'Assemblée nationale venait de voter une mesure, des mesures selon lesquelles on ne peut plus intégrer ceux qui ont participé à des groupes armés au sein des institutions, notamment au sein des services spéciaux, police armée ou services civils. Donc, sur le terrain, on assistera à un cessez-le-feu et à un début de dialogue. Si ce n'est pas le cas, ça sera alors c'est le tonus que donnera les institutions congolaises, les gouvernements, si avancer avec la force, les Nations Unies suivront. Tout dépend du gouvernement congolais.
Merci, tout dépend du gouvernement congolais. Monsieur Frédéric Kamani, à votre avis, c'est quoi l'impact de cette visite sur le terrain des opérations?
Ça, c'est quoi votre conclusion? L'impact, cette visite aura plus d'impact et tout dépendra de tout ce que la RDC fera au niveau interne pour capitaliser la présence de la délégation du Conseil de sécurité. Ça, c'est de un. De deux, je crois que l'impact de cette visite, c'est aussi vis-à-vis de la RDC de l'interpeller, de compter sur elle-même et d'interpeller aussi la communauté internationale, de cesser cette politique de deux poids, deux mesures. Face à la RDC, il y a un langage, mais face à l'Ukraine, il y a aussi un soutien tous azimuts. Et de trois, l'impact de la délégation de la visite du Conseil de sécurité permettra à ce que la communauté internationale se sente face à ses responsabilités du maintien de la paix et de la sécurité au niveau international et que le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies soit mis en place pour que la paix et la sécurité reviennent à l'est de la RDC.
Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci au professeur Nissé Mouhendi, à M. Timothée Chaomosucha et à M. Frédéric Amani. Merci aussi à Alain Ngoy qui était à la technique avec la participation de Charlie Louyeye. Sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe, à la présentation Guy Maté, et bonne suite de programme sur Radio Capi.